Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir dans cette émission Loïc Lahal. Loïc a d'abord été volontaire bambou il y a quelques années. Une première fois seul lorsqu'il était célibataire et puis ensuite une seconde fois avec son épouse au Cambodge, à Phnom Penh. Loïc continue sa mission auprès des enfants puisqu'il est responsable de la Thaïlande et du Laos. Loïc est basé à Bangkok et couvre donc ces deux pays. C'est-à-dire que Loïc, tu parles un petit peu thaïlandais. Lao, est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour introduire
Alors bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bah, j'ai la chance, ayant fait 2 ans de mission jeune et célibataire en immersion en Thaïlande, de parler correctement thaï. Enfin, j'arrive à me faire comprendre et à comprendre à peu près ce qu'on me dit. Voilà. Et l'intérêt, c'est que le Lao, c'est une langue thaï et donc je peux me débrouiller là-bas avec mon thaï et puis quelques mots de Lao un peu différents.
Alors aujourd'hui, dans cette émission, on va aborder un sujet qui est assez grave, assez lourd. C'est la situation des réfugiés, des camps de réfugiés qui se trouvent au nord-ouest de la Thaïlande. Il y a depuis une quarantaine d'années plus de 90 000 personnes qui vivent dans des camps de réfugiés, 9 camps de réfugiés et des personnes qui sont originaires de Birmanie. Est-ce que tu peux nous décrire leur origine? Je crois qu'il y a plusieurs minorités ethniques. De qui s'agit-il?
Alors, ils sont là en effet depuis plus de 30 ans, 35 ans. Il faut savoir que la Birmanie, c'est une fédération en fait d'un état Bamar, donc ils sont les Birmans à l'origine, et d'autres états ethniques, les Chan, les Karen, les Chin, etc. Voilà. Suite à la junte militaire, je pense que tout le monde connaît en Birmanie, il y a eu beaucoup de combats entre les ethnies et les provinces principales, qui sont les provinces Bamar.
Alors je crois qu'il y a plus de 135 ethnies en Birmanie, c'est ça? Dont une majoritaire, les Bamar, et les autres, ce sont des ethnies minoritaires.
Ce sont des ethnies minoritaires, mais malgré tout, avec des nombres, enfin des populations, je crois que les Karen sont 6 millions, ce qui fait quand même un peuple assez important. Et donc avec des armées, chaque gros groupe ethnique a son armée, et ils se sont battus pendant très longtemps avec des batailles un peu horribles ou avec des villages brûlés. Voilà, c'était pas une guerre très propre. Voilà, et donc il y a énormément de gens qui ont fui. Depuis la Birmanie, de l'autre côté de la frontière, le long de la frontière thaï, hein, qui est toute la zone montagneuse qui sert de frontière. Voilà. Et il y a 9 camps qui ont été ouverts depuis une bonne trentaine d'années, un peu plus maintenant.
Donc c'est-à-dire que ce sont des gens qui vivaient en Birmanie et qui ont dû fuir leur village, parce que leur village parfois a été brûlé, ils ont dû fuir leur village pour passer la frontière et se réfugier en Thaïlande.
Exactement. Voilà. J'avais eu des histoires de villages brûlés, de gens brûlés dans les maisons, enfin c'est des histoires horribles, et donc le reste du village qui a fui voilà, de l'autre côté des camps. Donc ça, c'est le principal mouvement de départ vers les camps. Après, il y a d'autres histoires où il y a des familles qui habitent vraiment au fin fond des montagnes et qui ont envoyé leurs enfants faire des études dans les camps parce que finalement ils avaient un meilleur niveau de vie à l'époque dans ces camps-là et plus de chances de ressortir diplômés, etc. Voilà. Mais le principal aujourd'hui, c'est les gens qui ont fui les exactions des militaires, hein, de quelque camp que ce soit. C'est toujours un peu compliqué de déterminer qui a bien fait et qui a mal fait. Voilà. Mais c'est vraiment la fuite de la guerre.
Alors, dans l'une des priorités d'action d'Enfants du Mékong, la situation des minorités ethniques, des populations déplacées est primordiale. Est-ce que tu peux nous dire ce que fait l'association sur ce sujet ? Avec qui nous travaillons localement?
Alors en Thaïlande, dans les camps, nous travaillons avec deux associations, une association qui travaille avec de femmes karen qui travaillent dans les camps, donc, et avec une deuxième association qui s'appelle le COER, qui est une beaucoup plus grosse association, qui travaille dans les 9 camps, qui est la seule association thaï à travailler dans les camps, et qui vient en aide aux besoins primaires des gens, hein. L'accompagnement social, l'occupation des gens dans les camps pour leur donner des formations, pour faire grandir les jeunes et les éduquer, etc., ce genre de choses.
Qu'est-ce qu'ils font exactement pour accompagner les familles, les enfants?
Ils ont plusieurs volets de leur action. Hein. Celui qui me marque le plus aujourd'hui, donc les camps, les gens n'ont pas le droit de travailler. Mais il y a 90 000 personnes qui vivent, et donc les gens se retrouvent à, à ne rien faire, etc. Ce qui crée des conditions de vie pas très agréables, voire engendre une forme de misère sociale assez forte. Voilà. Et donc ils vont organiser les choses, ils vont déjà employer des gens des camps en travail social pour mieux connaître les familles, détecter les cas compliqués pour pouvoir les gérer. Ils vont accompagner les jeunes vers l'école, ils vont accompagner les familles pour les rendre autonomes en nourriture en créant des... Ils ont créé depuis une vingtaine d'années des micro-fermes de permaculture bio. Voilà, qui fonctionnent, qui permettent aux gens
d'apprendre un métier, de vivre leur travail,
et puis d'en vendre une partie aussi, pour avoir un petit peu de moyens dans ces camps où malgré tout il faut vivre. Ce sont des villes, le plus petit camp fait 10 000 personnes je crois, et le plus gros camp aujourd'hui est à 35 000.
Comment ils aident aussi les personnes à anticiper une éventuelle sortie du camp? Parce que ouais. ce camp, est, même s'il existe depuis 30 ans, 40 ans, ce camp a vocation à disparaître. Et donc, y a un jour où peut-être que l'image est un peu simpliste, mais où le poisson va sortir de son aquarium.
Il y a eu un énorme espoir il y a 3 ou 4 ans maintenant, à l'élection de Aung San Suu Kyi, la prix Nobel de la paix, où le monde entier a pensé que les conflits étaient gérés en Birmanie et que les camps allaient fermer, etc. Et il y a énormément d'aides internationales qui ont baissé. Voilà. Et le COER aussi, avec d'autres partenaires, ont commencé à réfléchir à la réimplantation des familles de l'autre côté. Donc déjà, ils ont formé les familles à faire de la permaculture bio. C'est-à-dire qu'ils peuvent très vite se réintégrer dans un village et redevenir autonomes côté nourriture. Voilà. Mais ils travaillent aussi de l'autre côté de la frontière, dans les villages dans lesquels ces gens issus des camps vont arriver, pour les former de la même façon, afin que les nouvelles personnes arrivant ne soient pas un fardeau pour les villages, les habitants locaux, et entraînent d'autres conflits, côté birman, dans les villages où vont se réimplanter les gens issus des camps.
L'aide internationale donc, a beaucoup baissé ces dernières années parce que on a eu l'impression que la Birmanie s'ouvrait et que facilement les gens allaient pouvoir rentrer chez eux. Cette baisse de l'aide va beaucoup trop vite finalement. Est-ce que ça crée des conséquences?
Alors, ce qui est sûr, c'est que l'aide a baissé et que ça crée des conséquences. Cet espoir de paix en Birmanie, etc., a donné un espoir de réimplantation. Aujourd'hui, les conflits ethniques sont toujours là. Les processus de paix ne sont pas du tout aboutis. Il y a eu même une sécession des processus de paix l'année dernière. Et du coup, l'aide ayant baissé, les rations, notamment les rations alimentaires, ne sont plus suffisantes dans les camps, suivant les critères internationaux. Aujourd'hui, les écoles ont du mal. Il y a des écoles dans les camps, ce sont des villes, hein, et les écoles ont du mal à payer leurs professeurs. Voilà. Et donc cette misère matérielle entraîne une misère sociale assez forte, hein, avec des parents qui sont obligés de partir également des camps pour essayer de travailler en Thaïlande, pour essayer de ramener de l'argent, etc. Les enfants qui ne vont plus à l'école, l'alcool qui rentre là-dedans, etc. Et on a aujourd'hui, le COER nous alerte énormément sur des cas d'abus sur les enfants, de maltraitance, voilà, qui pour eux, hein, découlent vraiment de cette misère matérielle.
Donc là, il y a une situation finalement qui s'est empirée. Il y a une détérioration du fait d'une réduction de l'aide internationale.
Alors, c'est les grandes agences gouvernementales, l'Europe, les États-Unis, l'ONU évidemment, voilà, qui avaient des projets de long terme pour ces camps-là, pour permettre aux gens de vivre dignement dans ces camps. Voilà. Et puis, l'espoir étant été là, les aides ont baissé et les camps sont toujours là. Les gens ne partent pas parce qu'il y a encore des conflits, que la situation n'est pas assurée, qu'ils ont peur. Et voilà, il y avait une 25 ou 26 ONG il y a 5 ou 6 ans dans les camps. Elles ne sont plus que 13. Voilà, les reconstructions, rien n'est construit en dur, il faut reconstruire en bambou. Tous les ans, il n'y a plus assez de bambou, plus assez de fonds pour racheter des bambous pour reconstruire toutes les maisons. Donc tout se dégrade. Hein.
Donc ces 90 000 personnes sont prises en otage, sont prises entre deux eaux. Ils ne peuvent ni rentrer dans leur pays... qu'ils ne considèrent d'ailleurs pour certains d'entre eux plus comme leur pays, puisque y a une génération qui est née dans ces camps qui ne connaît que les camps. Et ne pouvant pas rentrer dans leur pays, ne pouvant pas non plus profiter d'une nationalité thaïlandaise qu'ils n'auront jamais, donc ne bénéficiant pas ou plus de l'aide suffisante pour se nourrir.
C'est ça. Les programmes de l'ONU jusqu'à l'année dernière pour proposer aux réfugiés des camps, c'était des programmes de réinsertion en Birmanie, ou tout un travail avec l'administration birmane pour leur trouver un lieu, les réinsérer. Ils ont changé ce programme aujourd'hui. Le nouveau programme, c'est de demander à la Thaïlande de les prendre comme travailleurs, de leur donner des permis de travail en Thaïlande pour qu'ils puissent participer à l'effort de travail en Thaïlande et s'insérer en Thaïlande. Voilà. Il semble que la Thaïlande soit prête à ça. Et les négociations sont en cours avec, côté birman. Voilà. Mais c'est pas encore clair. Mais vraiment, il y a eu un changement de programme aujourd'hui. Les gens n'ont pas envie de rentrer en Birmanie, ils ont peur et ils vont se retrouver dans des conditions qui seront sûrement plus difficiles que celles qu'ils ont dans les camps aujourd'hui.
Donc notre partenaire local, le partenaire d'Enfants du Mékong, qui s'appelle le COER, aujourd'hui nous demande de l'aide et nous demande une action précise pour les enfants maltraités. Ils nous font part notamment de 500 enfants qui sont victimes d'abus, de maltraitance. En quoi l'aide d'Enfants du Mékong pourra agir concrètement auprès de ces enfants ?
Aujourd'hui, tout le travail social du COER dans les camps leur permet de détecter ce genre de cas. Alors ça va de l'abus sexuel, de la maltraitance physique, voilà. Et ils sont touchés énormément, mais aujourd'hui, ils n'ont pas de solution pour aider ces 500 enfants. Ils auraient partagé 500 et puis les cas augmentent. Voilà. Leur projet... c'est de monter dans les camps des maisons d'accueil. On ne peut pas faire sortir les enfants des camps facilement. Des maisons d'accueil dans les camps de familles qui soient formées et accompagnées à accueillir ces enfants et à les éloigner des familles qui les maltraitent finalement. La difficulté, c'est que ces familles, elles n'ont pas de quoi se nourrir aujourd'hui, déjà pour elles. Et donc accueillir des enfants supplémentaires, elles n'en ont pas les moyens. Voilà. Donc le projet du COER, c'est deux choses. Une partie de formation et d'accompagnement de ces familles d'accueil. Et deux, de pouvoir donner à ces familles qui accueillent les moyens de pouvoir nourrir les bouches en plus qui vont accueillir. Voilà. Donc l'objectif, c'est de pouvoir les éloigner pendant quelques mois et en fonction des cas, trouver des solutions plus pérennes quand le retour n'est pas possible dans les familles où la blessure et la cassure est trop forte. Enfin, on parle vraiment de situations qui sont dures. Voilà. Ou dans des cas où ils ont pu aider la famille à remonter et à retrouver une dignité, de pouvoir faire revenir l'enfant à terme. Voilà.
Ce sont des enfants qui, pour certains, sont battus par leur propre père, leur propre mère, parce que le père est alcoolique. Le père est alcoolique souvent parce qu'il ne peut pas travailler dans les camps. Donc c'est peut-être une situation un peu simpliste que je décris, mais c'est pour qu'on comprenne bien. Hein. Cet enfant qui est victime d'abus, on va le placer dans une autre famille, au moins pendant quelques mois, pour lui sauver la vie. C'est-à-dire que pour, en tout cas, empêcher qu'il soit peut-être battu à mort. Et pendant ce temps-là, on va aider, d'une part, cette famille d'accueil à l'accueillir, et d'autre part, à sa famille biologique à se reconstruire.
C'est ça. Donc les programmes d'accompagnement des familles pour se reconstruire, retrouver une dignité en fait, hein, les hommes qui se retrouvent dans ces situations-là, enfin c'est ce que me racontent les travailleurs sociaux du COER, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'avenir, le camp ne leur offre aucun avenir, de l'oisiveté en permanence, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font rien, et puis ils picolent avec leurs amis, et puis voilà, on rentre dans une routine qui les entraîne vers le fond et vers des choses horribles, quoi. Donc il y a beaucoup de situations où ils peuvent récupérer la famille et la rendre digne, la faire travailler dans les nouvelles fermes qu'ils ont mis en place, etc., la faire participer à des activités dans les camps pour les faire grandir. Et là, les enfants pourront sûrement revenir. Voilà. Mais il y a forcément des cas horribles, et ils en ont déjà eu par le passé, mais c'était beaucoup plus simple, des cas de viol, voilà. Ou dans ces cas-là, il est possible aussi, il y a des programmes, notamment aux États-Unis, de pouvoir être repatriation, je ne sais pas comment on dit en français d'ailleurs, de pouvoir les envoyer dans une famille d'accueil aux États-Unis qui va pouvoir les prendre, parce que les familles, il n'est plus possible pour la sécurité de l'enfant et l'avenir de l'enfant de les laisser dans leur famille. Voilà. Mais c'est des cas très rares, évidemment.
Enfants du Mékong est connu, bien évidemment, pour... le parrainage d'enfants, mais là, l'association veut s'engager auprès du COER pour cette situation d'urgence. Et donc, chers auditeurs, nous faisons appel à vous pour soutenir ce projet au travers de dons ponctuels ou de dons récurrents pour ces enfants maltraités. Merci de votre écoute, merci Loïc et d'avoir décrit cette situation lourde. Je vous souhaite une bonne journée à tous, chers auditeurs.